Bienvenue au congrès virtuel de l'EFT 2016. Je suis Marie-Annelle, votre hôte ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Notre conférence ce soir s'intitule « La présence, l'attention et l'intention, trois points essentiels en EFT ». Sur quoi porter notre attention, que ce soit en séance EFT guidée par un praticien ou en autotraitement ? Quel lien entre la conscience et la présence ? La méditation de pleine conscience enseigne la présence. Mais qu'en est-il dans la pratique de l'EFT ? Une difficulté que rencontrent régulièrement les débutants en EFT est la construction des phrases. Et si une solution simple se trouvait dans l'attention ? Notre conférencière ce soir porte une attention particulière à la présence, à l'attention et à l'intention, tant dans sa vie privée que dans sa pratique de thérapeute manuel et dans sa pratique de l'EFT. Lors de ses formations, ses élèves peuvent comprendre à quel point la présence du praticien est importante. Le savoir-faire s'apprend, quel que soit le domaine de compétence. Le savoir-être se transforme, s'affine et s'améliore au fur et à mesure que la conscience s'élargit. Notre présentatrice ce soir nous a préparé une intervention sur ce sujet et elle va nous entraîner vers plus de savoir-être dans notre pratique d'EFT. C'est une joie toute particulière pour moi d'accueillir Noël Casson. Bonsoir Noël.
Bonsoir Maria. Je suis ravie une fois de plus d'être là ce soir pour un nouveau congrès.
Super. Alors pourquoi une conférence sur ce sujet Noël ?
Écoute Maria, j'ai vraiment eu à cœur de présenter ce sujet. Les débutants en EFT rencontrent des difficultés pour construire les phrases qui sont utilisées en EFT et c'est ce qu'on peut voir aussi à chaque congrès qu'on anime. Et d'après mon expérience, cette difficulté vient en grande partie du fait que ces trois paramètres, la présence, l'attention et l'intention, ne sont pas assez compris et développés. Et quand la présence et l'attention sont bien installées, les phrases découlent normalement toutes seules. La qualité de présence et d'écoute du praticien est au moins aussi importante que la technique elle-même, si c'est pas plus. N'oublions pas que le EFT est une technique psycho-énergétique et pour pouvoir la mettre en action correctement, on devrait travailler deux axes. Le savoir-faire, ça c'est connaître les points, savoir où ils sont situés sur le corps, comment les stimuler, et je dirais que c'est le plus simple à apprendre. Et le savoir-être, c'est justement notre capacité à être en présence et de nous-mêmes et du client, se connecter à la problématique du client, savoir faire le tri dans toutes les informations qu'il nous donne, et tu sais combien parfois ça peut être difficile, et donc de porter son attention sur ce qui est essentiel dans la séance. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de parler de ces trois fondamentaux qui sont la présence, l'attention et l'intention.
Oui, et tu as une sorte de compétence double par rapport à ça, parce que en plus de ton expertise EFT, tu es formée à la thérapie manuelle.
Exactement. Et que ce soit pour pratiquer les thérapies manuelles ou que ce soit pour pratiquer les techniques psycho-énergétiques ou tout simplement fonctionner d'une façon harmonieuse dans sa vie, tous les jours, la qualité de notre présence est vraiment essentielle. Ça nous est tous arrivé de lire au moins 5 fois la même page d'un livre parce que notre esprit pense à autre chose. On est complètement ailleurs. Si on n'est pas concentré sur notre lecture, on n'imprime pas ce qu'on lit. Et c'est le même principe avec l'EFT ou toute autre pratique de thérapie, qu'elle soit énergétique ou manuelle. Il faut vraiment être présent à soi et à l'autre. Pas simplement qu'à l'autre, il faut aussi être présent à soi, ce que nous fait le discours de l'autre, comment ça résonne en moi, et être très attentif à ce que l'autre nous raconte. C'est vraiment pour ça que j'ai à cœur de parler de ces trois paramètres, qui sont des paramètres subjectifs. La présence, l'attention et l'intention, c'est vraiment subjectif. Et pour ça, je vais parler du travail de Pierre Tricot, qui est kinésithérapeute et ostéopathe. J'ai suivi un de ses enseignements, et j'ai vraiment beaucoup aimé son travail dans l'approche tissulaire. Et il parle avec grand talent de la conscience corporelle. Pour lui, le corps, c'est un ensemble de conscience. Et l'enseignement que j'ai reçu me permet vraiment de faire le pont avec ces deux approches et de pouvoir entrer en communication avec les clients d'une façon plus globale et certainement plus intégrative que si j'avais qu'une seule technique. Alors, dans sa pratique de l'ostéopathie, Pierre Tricot annonce que le premier pas important pour lui a été de découvrir la nécessité d'être présent. C'est seulement quand il a commencé à expérimenter ce qu'il appelle la présence que certaines de ses techniques ont commencé vraiment à bien fonctionner et puis à fonctionner d'une manière plus uniforme. Et puis en pratiquant de plus en plus la présence dans son travail avec les clients, il a découvert que selon l'endroit où il plaçait son attention, la perception, c'est-à-dire sa perception manuelle en ce qui le concerne, donc la perception dans les tissus variait vraiment considérablement. Et au fur et à mesure de sa pratique, et au fur et à mesure que sa pratique s'est améliorée, elle s'est affinée et sa perception est devenue de plus en plus fiable. Dans la pratique de l'ostéopathie, les praticiens posent les mains sur les crânes de leurs patients et ils cherchent différents mouvements dans les tissus. Et ils trouvent ce qu'ils appellent des flexions, des extensions, des torsions, tout ça c'est des termes en ostéopathie un peu techniques. Et Pierre Tricot s'est aperçu que s'il n'avait aucune intention, il ne percevait rien du tout. Et pour trouver quelque chose, il faut le chercher, ou alors il faut interroger le corps. Dès qu'il était vide d'intention, sa perception manuelle n'existait plus du tout. Et puis un jour, il a fait une expérience assez incroyable pour lui, en tout cas ça a été le départ, un véritable départ pour lui, et il dit qu'il a été bouleversé en sentant que le crâne d'un patient se mettait spontanément, ce qu'on appelle une torsion, mais se mettait, on va dire, à bouger, quand il a posé mentalement la question, voyons, est-ce qu'il y a une torsion dans ce crâne? Et là, il a découvert que son intention a vraiment changé quelque chose dans les tissus, et les tissus se sont mis à leur répondre. Il s'est dit, mais à ce moment-là, je peux consciemment provoquer quelque chose dans les tissus de mes patients et obtenir une réponse. Donc l'intention, ça désigne simplement ce que nous voulons faire, c'est notre objectif. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'action. Et chaque fois qu'une action se manifeste dans le monde du vivant, c'est qu'une intention, à un moment donné, l'a générée. Et beaucoup d'études ont été faites sur l'influence de l'intention sur le vivant ou sur la matière.
Oui, ça me fait penser au séminaire avec Limak Taggart, il y a quelques temps, qui était venue à Paris. Elle parle justement de l'importance de l'intention et beaucoup d'expériences qui ont été faites avec ça.
Tout à fait. Limak Taggart, c'est une des spécialistes sur l'intention. Et vraiment, moi, je trouve son travail vraiment merveilleux. Alors, Lynn, c'est une journaliste scientifique. Elle a vraiment étudié de très très près cette notion d'intention et elle travaille avec plusieurs scientifiques de renom et elle a écrit un livre complet sur ce sujet qui s'appelle « La science de l'intention ». C'est vraiment un livre que je recommande. Je l'ai lu plusieurs fois et j'y reviens régulièrement dessus. Et ce livre nous parle de toutes les recherches et des recherches qui sont vraiment nombreuses sur la nature de la conscience et sur le pouvoir de l'intention. Ces recherches démontrent que les pensées peuvent vraiment avoir un effet sur toute chose, alors depuis des machines toutes simples jusqu'à des êtres plus complexes. Et après la lecture de ce livre, on ne peut vraiment plus douter de l'importance de l'intention en général, et en particulier celle du praticien EFT.
Oui, mais alors en EFT, l'intention du praticien sera laquelle ?
L'intention, je vais commencer si tu veux bien par l'intention du client. Mm-hmm. L'intention du client, c'est son objectif.
C'est sa demande.
C'est sa demande. C'est le pourquoi il est venu nous voir. Et parfois, l'objectif du client n'est pas tout à fait clair. Et à ce moment-là, il est bon de clarifier son objectif et son intention de séance. Mm-hmm. L'intention du praticien, elle devrait être plus claire à qu'elle n'est. Dans un premier temps, l'intention du praticien, ça peut être d'obtenir des informations. Tu sais, on fait une anamnèse et on va chercher à recueillir tout un tas d'informations sur le client. Et puis ensuite, on va aider le client. L'intention est d'aider le client à travers les séances EFT et à travers les tapotements. Quand une émotion forte apparaît chez le client, l'intention du praticien sera d'accompagner le client pour qu'il puisse traverser cette charge émotionnelle. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus loin tout à l'heure. Je développerai un peu plus.
Et en autre traitement,
l'intention devrait être posée tout à fait au début, du travail, elle devrait être claire. Et quand on fait de l'auto-traitement, on devait vraiment être clair dans ce qu'on veut obtenir. Obtenir d'une manière générale, sur plusieurs jours, et puis ce qu'on désire obtenir dans la séance. Et l'écrire me semble la meilleure façon de faire pour ne pas dévier de l'objectif de la séance, par exemple. Alors, le positionnement du thérapeute dans sa présence et dans son intention, on va s'apercevoir que ça a une grande influence sur les résultats qui sont obtenus.
Mmh. Et en EFT, en tout cas, quand on travaille avec un praticien, il y a un effet de miroir qui s'installe.
Complètement. Pour un praticien EFT et pour le client, faire de l'EFT en miroir, c'est vraiment pas un moment qui est vide d'attention de part et d'autre. C'est pas non plus vide de présence et les intentions sont évidemment en place dès la première rencontre.
Mm-hmm.
Pierre Tricot, que j'aime beaucoup dans son travail sur l'attention et l'intention, il dit ceci. C'est la qualité de la présence qui détermine la qualité des réponses tissulaires du patient. Lui, évidemment, il va beaucoup nous parler dans ses livres des réponses dites tissulaires et des tissus, puisqu'il pose la main sur les gens et il attend des réponses à travers les tissus et à travers le corps de ses patients. Mais en fait, c'est exactement la même chose dans la pratique de l'EFT. La qualité de la présence du praticien détermine la qualité des réponses chez le client, alors que ce soit des réponses de ses systèmes conscients et inconscients, corporels et énergétiques. Et bien sûr, la qualité de la présence et d'attention du client lui-même influence aussi beaucoup la séance. Et Pierre Tricot nous dit quelque chose qui m'a troublée, c'est que la simple présence stable du praticien suffit à la libération des blocages. Et plus la qualité de la présence augmente, et plus c'est vrai. Cet état de présence repose sur une profonde qualité d'écoute, de respect, et puis bien sûr une excellente qualité d'attention. Comme pour les praticiens en thérapie manuelle, il est très important pour le praticien EFT de s'interroger avant ses séances. Quel est mon état de présence? Sur quoi je porte mon attention? Et quelle est mon intention?
Bon, alors Noël, pour que ces informations ne restent pas une simple conversation, mais qu'elles servent vraiment à quelque chose dans nos vies et dans notre vie de praticien et d'auto-traitement d'EFT, est-ce qu'on peut faire une petite pratique?
Bah écoute, volontiers, volontiers. Pour la pratique, juste avant, je vais un peu clarifier la présence et on fera une pratique sur la présence. Alors, ce que je propose, c'est valable pour les praticiens EFT, mais aussi pour les gens qui font de l'EFT en auto-traitement. Ici, je ne vais pas parler de l'EFT qu'on fait en urgence. Tu sais, cette EFT, voilà, je viens de me prendre un point de table avec le pied et je vais faire une EFT comme ça, en urgence. Je vais plutôt faire un exercice sur qui va nous aider pour faire des séances EFT qui sont faites pour se libérer des schémas de pensée, des émotions qui sont mémorisées et qui sont tellement là que c'est devenu notre personnalité ou ces séances qu'on fait pour se libérer de traumatismes passés.
Mmh.
Alors, quand on parle de présence, on parle aussi d'espace. Ça fait appel à la notion d'espace. Le premier espace important, c'est l'espace dit extérieur. La pièce dans laquelle on travaille, et cette pièce devrait être perçue par le client comme un lieu très particulier. Un lieu un peu spécial, tu vois, un lieu où le client va se sentir suffisamment à l'aise, qui va pouvoir se dévoiler, et il va ressentir un état de sécurité et de confiance. Et si la sécurité et la confiance ne sont pas suffisamment perçues par les clients, ben, il aura tendance à vouloir fuir, ou il va sentir en lui une agressivité qui va commencer à apparaître.
Ou il ne va pas pouvoir se livrer.
Où il ne va pas pouvoir se livrer, tout à fait. Et puis, en auto-traitement, c'est pareil. Je vous conseille de choisir un endroit au calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant votre séance, un lieu dans lequel vous pouvez vous sentir tout à fait à l'aise pour pratiquer l'EFT. Ça peut être fermer la porte à clé ou mettre un panneau, ne pas déranger. Mais en tout cas, arriver à construire un endroit dans lequel les séances EFT pourront être faites avec plaisir, calme et concentration. Et puis ensuite, on va s'occuper de l'espace intérieur. Avant de faire entrer le client dans la pièce, ou avant de démarrer la séance en auto-traitement, demandez-vous quel est mon sentiment de sécurité et de confiance. En tant que thérapeute, si notre sentiment de sécurité et de confiance, alors sécurité et surtout confiance, que ce soit envers nous-mêmes, envers la technique ou envers notre client, si ces sentiments ne sont pas assez élevés, je conseille vivement de travailler sur ce sujet parce que c'est réellement important. Alors voici l'exercice. Prenez conscience de votre état de présence ici et maintenant. Juste interrogez-vous, quel est mon état de présence et de conscience? Et puis, portez votre attention sur votre respiration et sur tout votre corps. Maintenant, dites dans votre tête, je m'adresse à toutes mes cellules et à tous mes systèmes. Et puis, on va faire ceci. Quand on va inspirer, on va dire dans la tête, j'inspire et je suis consciente de tout mon corps. Et à l'expire, vous dites, j'expire et je suis consciente de tout mon corps. Vous le faites 3-4 fois. À chaque fois que vous inspirez, vous le dites dans votre tête. J'inspire et je suis consciente de tout mon corps. J'expire et je suis consciente de tout mon corps. Maria, est-ce que tu peux faire un retour sur ces premières respirations, sur ce premier exercice simple?
Mais ça détend. Pour moi, ça provoque des bâillements. Et il y a eu comme... voilà, j'ai essayé de faire ça comme un état des lieux, mais j'ai quand même eu une petite voix qui me dit... que tu me proposais de dire dans ma tête « je suis consciente », ben non, je n'étais pas si consciente que ça de tout mon corps. Donc, est-ce qu'on peut varier cette phrase et dire peut-être plutôt « je prends conscience de mon corps », »,« je prends de plus en plus conscience de mon corps » ?
Oui, 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 on peut commencer par atténuer un peu plutôt que d'affirmer « je suis consciente de tout mon corps ».
Oui, moi j'ai senti comme presque une objection.
On peut dire, je prends conscience de tout mon corps, et puis sur les respirations suivantes, je suis consciente de tout mon corps. Qu'on le fasse d'une manière ou d'une autre, l'objectif de l'intention, je dirais, de cet exercice, c'est de ramener justement la conscience à son corps. Mm-hmm. La conscience à sa respiration et retrouver un peu plus de présence ici et maintenant dans notre corps. Si, quand on fait cet exercice, on sent agacement, des tensions dans le corps. On peut aussi, dans l'inspiration, dire « j'inspire et j'apaise mon corps ». Et à l'expiration, on dit dans sa tête « j'expire et j'apaise mon esprit ». Si tu vas le faire sur 2 inspirations, « j'inspire et j'apaise mon corps ». « J'expire et j'apaise mon esprit ». Au départ, quand on fait ces exercices sur la respiration, on a tendance à porter notre attention dessus. Et comme on n'a pas l'habitude de le faire, on va forcer la respiration. Au fur et à mesure qu'on aura plus d'expérience dans ce type d'exercice, on pourra garder une respiration normale, je dirais, sans avoir besoin d'inspirer très fort et d'expirer très fort. Mais faut pouvoir s'entraîner au départ pour faire en sorte que ça s'installe, que la respiration reste normale et naturelle. Mmh. C'est des exercices de présence qu'on peut faire dans le métro, qu'on peut faire dans sa voiture, qu'on peut faire partout, tout au long de la journée. Et pour les gens qui se sentent un peu en état d'alerte, toujours un peu stressés, envoyer cette information, j'inspire et j'apaise mon corps, j'expire et j'apaise mon esprit, peut vraiment les aider à s'apaiser sans forcément faire de l'EFT et du tapping. Et puis, il est intéressant de dire... je m'adresse à toutes mes cellules, ou je m'adresse à tout mon corps. C'est un peu comme dire de la conférence, je vais m'adresser à tous les blonds qui sont présents. Les blonds, tout d'un coup, ils vont porter un peu plus attention à ce que dit le conférencier. Les autres vont y porter moins attention. Mais voilà, on va réveiller certaines parties, on dit, je m'adresse à... Et en EFT, ça peut être intéressant de faire ça aussi. Donc, si on a des objections vraiment fortes, des oppositions qui apparaissent, comme on le sait en EFT, quand on apporte du positif un peu trop tôt, une affirmation qui n'est pas complètement vraie, ça va réveiller ce qu'on appelle des oui-mais. Et là-dessus, on peut faire des rondes EFT, bien sûr. Ce que je peux proposer maintenant, c'est une ronde EFT qui va aider à installer un peu plus de confiance et de sécurité, un peu plus de sentiment de confiance et un peu plus de sentiment de sécurité en soi. Mmh. Alors, si vous avez vécu des traumatismes graves, des abus et de graves humiliations, la pratique de cet exercice, ça sera bien de la faire après avoir fait des séances EFT sur ce qui vous a vraiment traumatisé et faire ces séances EFT avec un praticien convenablement formé. Si pendant cet exercice, ou après l'avoir fait, vous sentez une gêne, ou si des pensées, c'est pas vrai, cet exercice, c'est vraiment n'importe quoi, ce genre de pensée, il est probable qu'une part de vous n'est pas vraiment d'accord pour laisser augmenter votre sentiment de sécurité ou votre sentiment de confiance. Et ça sera intéressant d'arrêter l'exercice et de travailler sur ce qui fait qu'une part de vous ne vous laisse pas installer plus de confiance et plus de sécurité, et pourquoi cette part de vous désire que vous restiez en état d'alerte. Par contre, si le sentiment de sécurité et de confiance sont suffisants, on va pouvoir améliorer encore cet état avec cet exercice. Mmh. Donc, je vais vous demander de tapoter les différents points sur le corps. On va commencer, comme à notre habitude, par le point karaté. Et Maria, si tu veux bien répéter les phrases, c'est parfait.
Bien sûr.
Alors,
est-ce qu'on fait une évaluation d'abord?
Oui, si tu veux. Voyons, sentiment de sécurité, sentiment de confiance, à combien tu le ressens ici et maintenant? Mm-hmm. Entre 0 et 10, 0 pas du tout, 10, ça serait le maximum.
D'accord, c'est noté.
C'est noté? Mm-hmm. Alors, le point karaté. Et on va dire ceci. Même si une partie de moi ne se sent pas complètement en confiance et en sécurité.
Même si une partie de moi ne se sent pas complètement en confiance et en sécurité.
Je m'adresse à elle.
Je m'adresse à elle.
Et l'accepte complètement.
Et je l'accepte complètement.
Même si une partie de moi.
Même si une partie de moi.
A de bonnes raisons pour ne pas se sentir.
A de bonnes raisons pour ne pas se sentir
complètement en confiance et en sécurité.
Complètement en confiance et en sécurité.
Ici et maintenant.
Ici et maintenant.
Je m'adresse à elle.
Je m'adresse à elle.
Et l'informe que j'entends son message.
Et je l'informe que j'entends son message.
Toujours sur le point karaté. Même si une partie de moi.
Même si une partie de moi.
M'informe encore qu'un danger est possible.
M'informe encore qu'un danger est possible.
Je m'adresse à elle.
Je m'adresse à elle.
Et je l'informe que j'ai bien perçu son message.
Et je l'informe que j'ai bien perçu son message.
Le point sur la tête. Je m'adresse à tous les systèmes énergétiques.
Je m'adresse à tous les systèmes énergétiques.
Corporels.
Corporels.
Et à mon système d'alarme.
Et à mon système d'alarme.
Coin du sourcil. J'informe maintenant tous mes systèmes.
J'informe maintenant tous mes systèmes,
qu'ils soient énergétiques ou corporels,
qu'ils soient énergétiques ou corporels,
que maintenant je peux me sentir en confiance,
que maintenant je peux me sentir en confiance,
et que je suis en sécurité,
et que je suis en sécurité.
Coin de l'œil, j'inspire, et j'accepte de me détendre, Faites-le, inspirez. J'accepte de me détendre. Le point sous l'œil. J'expire et j'accepte de me détendre.
J'expire et j'accepte de me détendre.
Et puis faites-le. Le point sous le nez. On va d'abord le dire, le faire après. J'inspire et j'apaise mon corps.
J'inspire et j'apaise mon corps.
Le creux du menton. J'expire et j'apaise mon esprit.
J'expire et j'apaise mon esprit.
Au point clavicule. Je me connecte maintenant à mes ressources internes.
Je me connecte maintenant à mes ressources internes.
Sous le bras. Je me connecte maintenant à mon calme intérieur.
Je me connecte maintenant à mon calme intérieur.
le poing sous le sein. Je suis ici en conscience.
Je suis ici en conscience.
Calme et détendu.
Calme et détendu.
Un retour sur cet exercice, Maria?
Mais ça fait du bien, ça détend, c'est sûr. Et j'aime beaucoup cette idée de s'adresser aux différents systèmes, de s'adresser aux cellules, au système énergétique, et aussi de parler spécifiquement au système d'alarme. Je suis pas sûre qu'il ait reçu beaucoup d'attention, le système d'alarme.
Voilà, ça peut être une métaphore, je m'adresse. C'est intéressant de dire spécifiquement, c'est dans ce sens qu'on va porter une intention particulière, je m'adresse à. Et Pierre Tricot nous dit, il nous dit, c'est plus efficace quand il dit je m'adresse à la conscience du genou plutôt que quand il dit je m'adresse au genou. Et il dit que c'est très important de ne pas s'adresser à la représentation du genou qu'on a de la tête. On peut avoir une image du genou dans sa tête. Mais vraiment de s'adresser à la conscience qu'il y a dans les tissus du genou de son client.
D'accord, c'est vraiment une approche holistique.
C'est ça. Il a vraiment travaillé sur la question. Il a regardé ce qui lui semblait le plus efficace et ce qui apportait le plus de réponses, en fait.
Alors, le deuxième point que tu voulais aborder, c'est l'attention. Et peut-être qu'il y a un lien avec l'écoute en ce qui concerne l'EFT.
Tout à fait. Pour le praticien EFT, porter son attention, ça fait vraiment partie de l'écoute. Encore faut-il définir peut-être un peu plus finement sur quoi on va porter notre attention. Et j'ai envie d'aborder le langage, les deux sortes de langage. On a le langage verbal et le langage non-verbal, le langage corporel. Alors, quand nous parlons, on parle de ce qu'on a mémorisé. Et mémoriser, c'est toujours interpréter. On le sait, la réalité en tant que telle n'existe pas. Et nous avons tous une représentation de la réalité qui est filtrée par tous nos organes sensoriels. C'est ce qu'on appelle le VACOG en PNL, mais ça représente V de visuel, A auditif, le K pour kinesthésie, là, toutes les sensations corporelles qu'on peut avoir, O pour olfactif et le G pour le gustatif. Et tout ça, la réalité est filtrée par tous ces organes sensoriels. Et puis, on va filtrer la réalité par nos pensées. Tout ça, c'est notre jugement. Le praticien EFT va porter son attention sur toutes les représentations qui sont exprimées par son client. Il doit faire un tri, une sélection dans toutes les informations apportées par le client. Et parfois, elles sont nombreuses. Et puis, il peut réfléchir aux conséquences de ces histoires qui sont mémorisées dans la vie de son client. Il est important que le praticien porte attention à l'histoire, c'est sûr. Et tout ça pour en comprendre les effets. Et il est également très important qu'il reste le plus factuel possible. Comme un miroir, le praticien EFT permet à son client de se découvrir lui-même et d'avoir accès à des parties de lui qui peuvent lui rester habituellement cachées. Et pour ça, il va reformuler les propos. Ça va permettre de créer un lien fort avec son client. Et ce client va se sentir entendu, compris et puis en relation avec son praticien. Et il va reprendre les mots du client pour faire le rond de EFT. Et pour construire les phrases qui sont utilisées, il va vraiment reprendre des mots du client. Et puis, ça va permettre de rester vraiment dans l'histoire personnelle telle qu'elle est mémorisée dans le système du client. Et puis, on fait ça, bien sûr, tout en stimulant son système énergétique.
D'accord. Mais si tu reformules, tu ne reprends pas exactement les mots du client. Alors, et comment choisir entre ces deux options?
Ce qui est intéressant, c'est de reformuler. Pendant qu'on collecte l'information chez le client, on va reformuler les propos, on va montrer à son client qu'on a bien compris ce qu'il est en train de nous dire. Et donc, on va tisser le lien avec lui, et puis on va lui dire, donc si j'ai bien compris, dans votre vie, il se passe ça, ça vous fait ça, vous ressentez ça, et on va reformuler les propos. Mais il est important dans les rondes de EFT de reprendre les mots du client parce que ça va faire écho. Et comme on est en miroir, ça va lui permettre d'entendre son système intérieur, de l'entendre de la bouche du praticien.
Oui, et c'est vraiment très différent. Je pense qu'il doit arriver comme à moi, Noël. Souvent, j'ai des clients. Moi, je sais que je suis vraiment en train de redire tel un perroquet exactement les mots qu'ils m'ont dit. Et eux, ils les entendent comme pour la première fois.
Voilà. Donc, oui, il va y avoir...
Oui, vous dites tellement juste. Et non, en fait, je suis juste en train de répéter ce que vous venez de dire.
Exactement. Exactement. C'est vraiment important, de, quand on fait des stimulations sur le système énergétique, de reprendre au maximum les mots que nous a dit le client. Et puis, on va aussi porter son attention sur son langage corporel.
Oui, le langage non-verbal.
Le langage non-verbal. Le corps du client nous parle en permanence. Tout ce langage du corps, et c'est le langage de l'inconscient. Et ça nous apprend beaucoup. Les soupirs, les blocages respiratoires, les relâchements de la nuque, des épaules, du visage aussi, les crispations musculaires qui vont apparaître, la position du client sur la chaise, s'il se redresse, s'il avance, s'il recule. Toutes ces expressions, tout ce langage corporel est vraiment très, 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 très important. Je me rappelle, pendant une formation en EFT, je supervisais un exercice. Le praticien demande au client: quand tu repenses à cette scène de ton passé, que ressens-tu? Puis le client répond: je me sens très stressée et tu vois, même là, j'ai envie de me lever et de partir. Et le praticien a répondu spontanément: ah bon, mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir, tu n'as pas besoin de fuir. Et comme c'était en formation et que les gens sont très focalisés sur la technique, ça a été quasi automatique, c'était spontané, ça a été pour rassurer le client, pour lui dire: mais non, ça n'a rien à voir aujourd'hui, tu n'as pas besoin de fuir. Et là, moi qui étais observateur, j'ai vu tout le corps du client qui se crispait complètement. Tout le corps du client ressentait le danger, comme s'il était réel et bien présent. Et puis cette phrase: ben aujourd'hui ça n'a rien à voir, tu n'as pas besoin de fuir. Dans le fond, ça disait: ben, ce que tu ressens, c'est inapproprié, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas bien.
Détrompe-toi.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on ressent, c'est toujours une réalité. Et nier cette réalité, c'est une erreur fondamentale. Et cette erreur va fermer les portes au changement. Et le changement, la progression devient complètement impossible. Ça réveille des protections en nous qui bloquent immédiatement la progression de la séance.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire dans ce cas précis?
Dans ce cas précis, on aurait pu dire: ah, comme c'est intéressant. Est-ce que tu peux me dire ce qui déclenche cette envie de te lever et de partir maintenant? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu ressens? Ou lui dire: à ce point, même là, de repenser à cette image, ça te donne envie de partir de cette pièce? Et de rester vraiment à ce que dit le client, c'est une réalité. Déjà, nous-mêmes, on a tendance à se dire: je ne devrais pas penser ceci, je ne devrais pas ressentir cela. Et ça nous coupe de rester en présence de ce qui apparaît et de ce qui est là. Et travailler l'EFT en auto-traitement, ce n'est pas très simple, justement, de rester en contact avec ce qui apparaît et qui, généralement, par adaptation, on va mettre de côté. Donc, je conseille de travailler par écrit. Ça permet de ralentir le flot de la pensée. Ça permet de terminer les phrases qu'on a dans la tête, parce que dans nos têtes, nous pensons plus en termes de sensations, de début de phrase, voire simplement des mots, des images, des flashs. Et tout ça, c'est très confus. Et on n'a jamais de phrase vraiment complète. Donc, de travailler par écrit, ça va permettre de développer la pensée. Et quand on travaille en auto-traitement, soyez vraiment très attentifs à toutes les sensations corporelles qui arrivent. Comment je me sens? Quelles sensations arrivent? Où cette sensation est-elle dans mon corps? Restez attentifs, soyez en présence de ces sensations. Vous êtes en train de dialoguer avec votre corps et avec tous les schémas qui sont mémorisés dans les cellules. N'oubliez jamais que les émotions sont toujours un ressenti corporel. Quand vous êtes attentif et présent à vos sensations corporelles, souvent de nouvelles images qui sont en lien avec la problématique apparaissent.
Oui, c'est le corps a aussi ses mémoires et Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourra développer.
C'est ça, le corps, la cellule a sa conscience, le corps est un organisme conscient.
Mmh.
Et ce qui est important quand on travaille en EFT, c'est de mettre en lumière les déclencheurs, justement. Les déclencheurs des émotions, les déclencheurs des sensations corporelles qui arrivent. Et le fait de rester comme ça, en présence et de s'interroger, qu'est-ce que je ressens, c'est où dans mon corps, à quoi ça me fait penser, à quoi ça me renvoie, ça fait vraiment émerger de nouvelles images et de nouvelles sensations.
Mmh. Ok, super. Donc ça, c'est pour l'attention, l'écoute, le langage verbal, non-verbal. Et le troisième point clé que tu voulais aborder ce soir, c'est l'attention.
Complètement. C'est vraiment ce que je voulais faire.
C'était
mon intention, c'est ce que j'allais dire, ça m'a fait rire. Donc, il y a un modèle en psychothérapie que j'aime beaucoup et qui décrit assez bien notre système intérieur. Et ça le décrit comme un ensemble de différents personnages qui seraient des personnages vraiment à part entière. Ce modèle existe à peu près depuis une trentaine d'années et c'est l'Américain Richard Schwartz qui l'a créé. Et ça s'appelle le système familial intérieur, ou IFS. Internal Family System. Le docteur et neurologue François Ledoz l'enseigne en France et en Europe. Accueillir, écouter, travailler avec ces différentes parties de nous-mêmes, c'est une façon très efficace de travailler en EFT. En début de travail, notre intention est de se mettre en contact avec ces différentes parties et avec ces différents personnages. Puis, une fois que ce contact est établi, l'intention sera de les aider à se libérer de leur charge émotionnelle, de leurs problématiques. À notre traitement, on peut s'aider en les nommant, comme par exemple, je peux avoir une partie de moi qui apparaît, et puis je vais l'appeler Noël la râleuse, ou la râleuse tout court, ou tiens, il y a une partie de moi qui apparaît, et puis ah, c'est la trouillarde, parce qu'elle a peur de quelque chose qui va apparaître. On peut les baptiser comme ça. On peut même leur demander comment elles s'appellent, et parfois elles répondent. Alors certaines de ces parties portent des fardeaux, des blessures, des traumatismes. D'autres parties nous donnent de très bons conseils. Il faut pas, tu devrais pas. Et puis d'autres parties, c'est vraiment des championnes de la critique. T'es trop nulle, t'es pas assez bonne, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et tout ça, ça fait tout un ensemble de personnages intérieurs qui viennent nous parler.
Mmh.
Ce qui est intéressant et important de savoir, c'est que toutes ces parties ont toutes, toujours, une intention positive. Nous protéger, nous rendre meilleurs, nous faire évoluer et nous conseiller. Elles veulent toujours notre bien, même si parfois c'est pas évident. Certaines ont perdu confiance, alors elles vont se mettre à crier et puis nous dire qu'il faut pas faire confiance. D'autres cherchent à nous garder en sécurité. Certaines n'ont pas du tout envie de travailler, pendant que d'autres veulent absolument qu'on se mette au travail immédiatement. Mais encore une fois, c'est là que la notion de sécurité et de confiance peut être perturbée, car souvent, c'est seulement une seule petite partie de nous qui est concernée. Être en contact avec ces parties de nous-mêmes nous demande un minimum de recul pour pouvoir les observer. Et parfois, pour pouvoir avoir ce recul, il sera nécessaire d'être accompagné d'un praticien et ça va nous permettre d'entrer en contact avec ces parties, de les accueillir, de rester avec elles et puis de les écouter. Et parfois, ce qu'elles ont à nous dire, on n'a pas très envie de l'entendre. Donc, à notre traitement, c'est vraiment pas facile.
Oui, et en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on a tout ce discours plus ou moins cacophonique à l'intérieur. Donc, c'est difficile aussi de faire le tri là-dedans.
Et puis, pour pouvoir être parfaitement adapté à notre vie quotidienne, c'est intéressant de ne pas être tout le temps en contact avec ce vacarme intérieur.
Mmh.
Donc, c'est très adaptatif que de les laisser de côté et de ne pas les écouter. On ne peut pas être tout le temps en train d'écouter notre critique ou tout le temps en train d'écouter une partie. Donc, on met ça un peu de côté et puis on peut être complètement adapté à notre environnement.
Mmh.
Donc, c'est une excellente chose. Mais si on veut s'arrêter, travailler sur soi et aller apaiser ses parts, il faut être en capacité de rester au contact. Je me rappelle d'une de mes clientes qui était remplie de doutes et ça l'angoissait beaucoup et elle avait un choix à faire et elle n'arrivait pas à faire ce choix. Et elle me disait, j'aimerais tellement ne plus avoir de doutes. En fait, le doute, c'est quelque chose qui est très utile pour prendre une décision. Elle permet la prudence, elle nous évite de faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Donc douter, c'est vraiment quelque chose qui est très bon, sauf quand c'est envahissant et que ça prend toute la place. Alors, en séance, on a écouté la partie qui s'exprimait et qui exprimait tous ses peurs et tous ses doutes. Et puis on a constaté qu'une autre partie est arrivée, et puis elle était très impatiente qu'une décision ferme et définitive soit prise. Mais dès qu'une décision allait être prise, hop, la partie qui doutait revenait, puis elle exprimait de plus belle sa peur, son anxiété. Et c'est vrai que la cliente, toute seule, tournait en rond entre ses doutes et son impatience de faire le choix. Mmh. Et le travail peut commencer par l'accueil de ces différentes parties. L'intention, là, c'est vraiment d'écouter ces parties dans tout ce qu'elles ont à dire, de collecter les informations, et c'est pas de la chasser ou de les faire taire. C'est rester dans l'écoute avec une intention de ne rien faire, justement, de ne rien faire de particulier, juste d'écouter, de recueillir les informations. L'important n'est pas de juger son incapacité à prendre la décision, c'est vraiment d'écouter tous les arguments, les pour, les contre, que ces parties nous envoient, et puis de prendre une décision une fois que toutes ces parties ont été écoutées, avec lesquelles on doit pouvoir parfois négocier, et c'est ça le travail.
Mmh. Oui, et dans les séances EFT, je pratique ça souvent, je laisse parler toutes ces parties. Parfois, ça passe par un temps désigné à chacun. Parfois, elles ont juste besoin d'avoir une voix, en fait, de se faire entendre.
Exactement. Ça peut complètement déjà apaiser le client, rien que de dire « j'ai bien compris, c'est intéressant, je comprends, accueillir, et puis c'est la grande phrase que l'on stimule sur le point karaté, qu'on dit en stimulant le point karaté, même si j'ai cette problématique, je m'accepte complètement. Mmh. Donc voilà, on a travaillé on s'est pris à plusieurs reprises, et puis on a vraiment écouté, accueilli, fait des stimulations sur le système énergétique, ce qui change tout, puisque c'est la grande différence qui nous éloigne de la thérapie, de la psychothérapie conventionnelle, c'est la stimulation de ces points énergétiques.
Mmh. Alors, si on est dans ce cas de doute, difficulté à prendre une décision, comment ça pourrait se travailler en EFT ?
En EFT, on va pouvoir d'abord accueillir, donc on pourrait dire, même si une partie de moi, j'aime beaucoup travailler en disant ça, une partie de moi, parce que c'est pas tout. Toutes mes parties qui sont pas d'accord, ça peut être juste une ou deux.
Oui, ça distribue les rôles, je trouve. C'est assez intéressant.
Donc, on pourrait dire, même si une partie de moi ressent des doutes, je m'adresse à elle et je lui dis que je l'accepte complètement ou que je l'entends, que j'entends son message. Même si une partie de moi ressent de l'impatience.
Mmh. Car une autre partie de moi.
Voilà. Mmh. Même si une autre partie de moi ressent de l'impatience quand je n'ai pas encore réussi à faire mon choix définitif. Je m'adresse à elle, je l'accepte complètement ou je l'accepte du mieux que je peux. Même si je suis encore dans cette confusion, je m'accepte complètement.
Et j'accepte toutes les parties de moi-même.
J'accepte toutes ces parties de moi. Et quand je travaille de doute avec des clients, on peut s'apercevoir que la prise de décision, il nous semble qu'il nous faut prendre une décision très 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 vite. Souvent, pas toujours, mais souvent, c'est une illusion qu'il nous faut prendre cette décision là tout de suite et que c'est terrible si on n'y arrive pas. Mm-hmm. Parfois, il nous reste encore du temps pour prendre cette décision et quand on est apaisé, tranquille, c'est là où on peut faire les meilleurs choix. Le choix se fait avec la tête, mais se fait aussi avec le cœur, se fait aussi avec tout notre ressenti. Donc ces parts de nous qui apparaissent, elles sont généralement très jeunes et comme on ferait avec un enfant, il est important de ne pas le faire taire, de ne pas le remettre à sa place en le rabrouant, de le rejeter ou de le chasser. C'est l'accueil et rester en présence.
Mmh. Le laisser s'exprimer, laisser prendre sa juste place.
Et c'est en ça que la présence du praticien EFT est importante. Parce que lui, il va pouvoir être le garant que l'attention est portée et que le client reste bien en présence, porte son attention sur ses parties et va l'aider dans cette pratique.
Mmh. Oui, il peut rassurer aussi certaines de ses parties qui sont angoissées, qui ne se sentent pas entendues.
Oui,
il peut être là un peu en arbitre et dire « Ok, maintenant on va entendre telle ou telle partie ».
Exactement, il va ralentir la progression, il va porter l'attention sur peut-être quelque chose que le client a dit et le client ne s'est même pas entendu le dire. Donc il dit « Non, mais vous venez de dire quelque chose de très intéressant et on va rester un peu en présence de ça
mmh. ».
Je voudrais lire quelques phrases de Pierre Stricot que j'ai préparées parce que je trouve que ça s'applique aussi bien dans la pratique de thérapeute manuel que dans la pratique de l'EFT. Il nous dit ça. Le rôle du praticien n'est pas essentiellement de faire, mais d'être. Il doit être présent et accompagner son patient. Les consciences sont des êtres. En tant que telles, elles sont sensibles à l'être, à la qualité de la présence. C'est parce qu'elles se sentent accompagnées qu'elles acceptent de revivre l'incident. Le faire du praticien se réduit à de petites choses destinées à guider le patient et à l'aider à le traverser. Mais en tant que praticien, nous avons été éduqués dans le faire. Nous en faisons toujours trop. Nous avons beaucoup de mal à simplement être. Pierre Tricot. Et je pense que ça s'applique aussi à l'EFT. Il est vrai qu'il faut faire des stimulations sur le système énergétique. C'est vrai qu'il faut tapoter, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Le principal, en début de travail, c'est de pouvoir rester dans la présence et de porter une grande attention au discours interne du client et au sien aussi en tant que praticien. L'intention première sera d'accueillir nos dialogues intérieurs, nos différentes parties de nous-mêmes et ces différentes parties essaient désespérément de nous faire comprendre leur message. Et lors des formations EFT, j'insiste sur la présence et sur l'intention du praticien et puis sur quoi on porte notre attention, bien sûr. En faisant des tapotements, notre intention ne devrait jamais d'être de faire disparaître les émotions. L'émotion, c'est comme une vague. Il faut la traverser et pas vouloir absolument la bloquer, l'éviter ou la briser. On peut compter sur les tapotements qui servent à remettre le flux de l'énergie en circulation dans les systèmes énergétiques. Et puis aujourd'hui, on sait que les tapotements EFT ont vraiment une action sur le cerveau et qui calment l'activité du système d'alarme qui est une petite zone dans le cerveau qui est dédiée à ça et qui s'appelle l'amygdale. Donc la présence, l'attention, la conscience sont vraiment des qualités essentielles à une vie harmonieuse. Et plus nous serons au clair avec nos intentions, plus nos objectifs pourront être atteints. Voilà Maria, ce que j'avais envie de dire ce soir. J'espère avoir amené un peu plus de lumière sur ces paramètres subjectifs sur le chemin de l'EFT.
Merci Noël, merci pour ces clés. La présence, l'attention et l'intention. On va retrouver les auditeurs dans le chat pour les questions.
Avec grand plaisir, Maria.
Tu as l'intention de répondre ?
Parfaitement.
Tout de suite. Restez présents, on se retrouve.
Voilà, on va ouvrir le chat et vous pouvez poser vos questions à Noël concernant la présence, l'intention et l'attention dans la pratique de EFT, que ce soit avec un praticien ou en autotraitement. Et pendant que nous laissons venir vos questions dans le chat, nous allons procéder au tirage au sort.
Au tirage au sort. J'attends les questions, je ne les vois pas encore.
De quoi s'agit-il ?
En attendant que les questions arrivent, je vais parler un peu de la boutique. Donc, pour ceux qui arrivent sur le congrès, EFT, vous avez la possibilité de réécouter pendant 24 heures, mais ensuite, si vous avez envie d'acquérir la totalité des conférences, vous pouvez acheter le pack. Vous avez ça à côté du chat. Achetez un pack, vous cliquez là-dessus et vous pourrez avoir les 14 conférences avec les 14 bonus offerts par nos différents experts. Et puis, vous pouvez aussi acheter des conférences à l'unité. Vous avez cette année la possibilité d'acheter des conférences à l'unité, que ce soit les conférences de cette année ou les conférences des années précédentes. C'est la première année qu'on offre cette possibilité puisqu'on a découpé tous ces packs et vous pouvez aller acheter des conférences à l'unité. Voilà ce que je pourrais dire, Maria. Et donc, chaque année, on a l'habitude de faire gagner ces packs, les packs où il y a aussi les transcriptions des conférences. On appelle ça le pack PDF. Et donc, on a un bouton dans le système qui permet de faire
un tirage tous les membres, donc les personnes présentes ce soir en direct, mais aussi toutes les personnes qui se sont inscrites depuis les 3 semaines. Depuis l'ouverture du site. Donc, je vais faire tourner la tournette magique et nous allons voir qui va repartir avec ce beau cadeau que, je rappelle, est téléchargeable. On a eu la question, est-ce que vous envoyez le lot gagnant en Suisse ? En fait, oui, on l'envoie partout parce que c'est téléchargeable. Donc, notre première gagnante pour cette deuxième conférence ce soir est Odile. Odile, dont l'adresse mail commence par ODI.
Encore?
Non. Excuse-moi, j'ai misé aussi le chat. Et il me semblait que tout à l'heure, la gagnante s'appelait Odile aussi.
Alors non, tout à l'heure, on avait Anne et je ne sais plus quoi, avec qui, mais là, c'est une autre Odile en tout cas. Donc, adresse mail ODI plus loin SSE at orange.fr. Voilà, encore un petit coup de pub pour Orange. Donc, bravo Odile, vous repartez avec ce beau pack privilège PDF avec donc les enregistrements des 14 conférences qui vont se faire pendant la semaine, leurs transcriptions qui mettront un peu plus de temps et surtout les 14 bonus. Et d'ailleurs, Noël, on n'a pas parlé de ton bonus.
Ah oui, on n'a pas parlé de mon bonus.
Oui, mais attends, deuxième gagnante d'abord.
Je t'en prie.
Deuxième gagnante, c'est Vivienne. Vivienne, dont l'adresse mail commence par V-I-V et plus loin A-I-N at orange.fr. Voilà, voilà. Bravo, Odile et Vivienne. Vous serez contactés par mail et vous allez recevoir votre cadeau téléchargeable d'ici quelques jours quand il y aura plus de matière dedans puisque les conférences ont commencé ce soir. Ok, alors, c'est parti.
Alors, c'est parti les pour questions, les questions.
Alors, qu'as-tu vu?
Donc, voilà, je donne une référence. Pendant cette conférence, je fais référence à Pierre Tricot, qui a beaucoup travaillé en ostéopathie. C'est un monsieur qui arrivait très mal à avoir de sensations manuelles, ce qui est essentiel dans l'approche de l'ostéopathie. Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'approche tissulaire de l'ostéopathie ». Alors, je vous préviens, c'est vraiment un livre sur l'ostéopathie. Hein. Il a beaucoup travaillé sur les trois axes, l'attention, l'intention et la présence, parce que ça lui a semblé important. Et c'est en développant ces trois axes qu'il a pu commencer à devenir un bon ostéopathe. Mais c'est vraiment un livre sur l'ostéopathie tout de même. Hein. C'est pas un livre sur l'UFT.
Oui, c'est toi, en tant que double praticienne, aussi bien pratique manuelle que psychologie énergétique, qui a fait les liens dont tu nous as parlé ce soir.
En fait, ce qui m'a
amené... Pierre Tricot ne fait pas de UFT.
Pierre Tricot ne fait pas du tout de UFT. Ce qui m'a amené à l'UFT, c'est qu'à l'époque, je faisais des études d'ostéopathie et j'exerçais en thérapie manuelle. Et j'ai eu la chance de faire des stages, une formation dans cette approche ostéopathique très particulière qui s'appelle l'approche tissulaire de l'ostéopathie. Et puis après, j'ai essayé d'aider mes clients au-delà de leurs problèmes physiques, qui sont souvent déclenchés par des problèmes émotionnels. Je me suis énormément intéressée aux émotions. J'ai rencontré la psychologie énergétique et je suis allée plus avant dans cette globalité de l'humain. Et j'ai adoré cette approche tissulaire. Donc voilà pourquoi je parle de ça. Et ces trois axes, je m'en sers, que ce soit dans mon travail de thérapeute manuel ou en EFT. Alors, je vais reprendre les questions. Il y en a beaucoup.
Voilà, on essaye de les traiter dans l'ordre. C'est pas sûr qu'on puisse les traiter toutes. Vous pourrez continuer à les poser dans la page de réécoute plus tard ce soir. Et voilà. N'hésitez pas à reposer vos questions. Ne dites pas dans le chat, répondez à ma question, mais recollez la question. C'est le meilleur moyen.
Il y a Doudi qui me dit, j'ai cru comprendre que plus on revenait sur un problème antérieur, plus on pouvait dénouer les choses. De ce fait, à partir de quoi doit-on aller chercher dans les traumas antérieurs chez un patient, s'il vous plaît? Il est vrai que plus on va aller nettoyer, guérir, soulager le premier problème qui est le déclencheur, plus on va avoir de résultats en thérapie. Pour pouvoir aller chercher le problème antérieur, le déclencheur se trouve néanmoins dans le présent. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de partir sur le problème qui est présent. Aujourd'hui, par exemple, la critique est quelque chose qui m'est insupportable. Donc, je vais partir d'un déclencheur du présent. Et le client va avoir
des images de son passé qui va revenir, parce que ça va lui faire penser à une autre fois où il a été critiqué, et puis ça va lui faire penser à une autre fois où il a été critiqué encore plus ancienne, encore plus ancienne. Donc en NLP, on va aller travailler sur chaque fois où ça s'est produit pour nettoyer au maximum tous les traumas dus à la critique, par exemple. Comment Sophie demande comment aider un enfant à améliorer son attention. D'abord en EFT, on peut tout à fait. Alors là, je ne sais pas un enfant de quel âge. En EFT, on peut travailler avec les enfants. Jean-Michel Guéry donnera une conférence cette semaine sur l'intelligence émotionnelle chez l'enfant. Et ensuite, on peut aussi aider les enfants à porter leur attention sur des choses et s'il y a vraiment beaucoup de difficultés. Porter attention sur des choses simples pour lui, des choses qui le passionnent pour commencer, et puis faire de l'EFT sur ce qui va l'agiter intérieurement et l'agitation qui va détourner de son attention. Ensuite, il me manque des éléments pour pouvoir répondre plus avant, mais ça peut être un bon début. Que doit-on rédiger par écrit à notre traitement? Juste la problématique, oui. Un autre traitement, vous allez pouvoir rédiger ce qui vous pose un souci, vous faites des phrases complètes. C'est en ça que c'est intéressant notre traitement par écrit, c'est que vous écrivez vos phrases, ça ralentit le flux et le flot de vos pensées, et ensuite vous reprenez ce que vous avez écrit et vous tapotez dessus. Je vais m'interrompre un instant. L'année dernière, j'ai donné une conférence sur les points essentiels pour l'EFT en auto-traitement. Oui. Et vous pouvez aller acheter cette conférence sur l'auto-traitement. Ça va vous apporter plein de clés. Et je voulais parler du bonus, Maria, parce que du coup, je suis partie à fond sur les questions. Et le bonus que j'offre cette année, c'est un bonus que moi, je trouve assez exceptionnel. Je vais remercier de tout mon cœur, Héloïse, qui a accepté que j'offre une séance que j'ai faite avec elle. Et Héloïse, pour ceux qui avaient vu les vidéos de promotion du congrès, c'est une jeune femme qui est venue me voir et je travaille avec elle. Elle a déclenché une maladie de Parkinson il y a une dizaine d'années. Et pour elle, elle a identifié le trauma qui a déclenché chez elle la maladie. Et entre le moment où elle a eu ce traumatisme et le moment où la maladie s'est déclenchée, il s'est passé quelques années. Et on est en train de travailler ensemble sur tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il se trouve qu'elle est venue à une de mes formations. Et puis, pour une démo, elle s'est proposée. Elle a dit, voilà, moi, je veux travailler sur ça maintenant. Et j'ai mis mon téléphone à côté de nous et j'ai enregistré l'audio de cette véritable séance. Et puis, je trouve ça tellement intéressant ce qui s'est passé pendant cette séance que je lui ai demandé s'il était OK pour l'offrir. Elle a dit oui. Et donc, c'est le bonus que j'offre cette année. Et dans cette séance, justement, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup d'espace qui est donné à l'attention. On a porté attention à différentes parties d'elle. Et vous verrez à quel point, si vous écoutez cette conférence, à quel point les blancs et l'espace vide est un espace important dans la thérapie. Alors, je poursuis, je regarde les autres questions. Si tu en vois, Maria, n'hésite pas à me les donner à haute voix.
Alors, j'essaie de les traiter dans l'ordre. J'essaie de répondre aussi à des personnes qui demandent des références des livres. Donc, on vous les a mis dans le chat.
Alors, quelle difficulté, quelle difficulté se concentrer et se focaliser son attention sur un point? J'ai les mêmes soucis au yoga. Lorsque je dois, j'essaie de me concentrer sur ma respiration, l'esprit qui court et qui vagabonde. La problématique, c'est qu'à l'intérieur de nous, j'effleure un peu cette idée dans la conférence, c'est qu'on a plein de parties de nous et chacune de ces parties de nous a des choses à nous dire. Déjà, en EFT, quand vous travaillez sur ce discours et ce dialogue intérieur, vous allez porter votre attention sur toutes ces voix qui vous disent des trucs. Je pense que tant que ces parts de nous ne se sentent pas écoutées et comprises, elles continuent leur dialogue parce que c'est comme si on ne les avait pas entendues. Donc, prenez un temps, posez-vous,
mettez ces discours intérieurs sur papier et faites de l'EFT dessus déjà pour les accueillir. Moi, j'ai une astuce. Le soir, quand je m'endors, il m'arrive, comme tout le monde, d'avoir des pensées. J'ai oublié de faire ça et n'oublie pas de faire ça demain. Je fais la liste de tout ce que j'ai à faire. Et je me dis, ici et maintenant, je n'ai pas la possibilité de régler ce problème maintenant. Je ne peux poser aucune action. Je suis au lit, il est temps de dormir. Donc, je demande à toutes ces parts de moi de se mettre au repos également. Je les retrouve demain matin, qu'elles ne s'inquiètent pas. Personne ne viendra régler mes problèmes pendant la nuit. Et donc, on se retrouve demain matin. Peut-être que, quand vous êtes dans votre yoga, dites à ces différentes parties de vous, « Ok, là, c'est l'heure du yoga. On va s'apaiser. Je vais porter mon attention sur ce que je suis en train de faire. » Et c'est aussi se donner l'autorisation d'être consciente de ce qu'on est en train de faire, de se donner l'autorisation de ne plus penser à ses soucis ici et maintenant. On est OK pour repenser à ça tout à l'heure. Et en EFT, bien sûr, on peut aller faire des rondes de type, même si pour l'instant ce problème est envahissant à l'intérieur de moi, je m'aime et je m'accepte, et vous faites sur chaque point ce problème qui est envahissant, cette pensée qui est envahissante, puisque tout ça ce sont que des pensées, c'est cette part de moi qui me rabâche en permanence ça, je m'adresse à elle, je lui dis que je l'entends, je lui dis que je comprends son message, et vous faites ça tout en tapotant.
Alors, je vois un message de Agave. Bonjour, j'ai beau utiliser mes déclencheurs, rien n'y fait, l'émotion ne se calme pas. Merci de vos conseils.
Tu peux me répéter ? J'ai beau m'occuper des déclencheurs ?
Oui, j'ai beau utiliser mes déclencheurs,
l'émotion ne se calme pas. C'est certainement que les déclencheurs du présent sont moins importants à traiter que les déclencheurs du passé. Il faudrait arriver à faire des ponts et des liens avec ce qui s'est passé plus avant. Là, j'ai trop peu d'informations. Imaginons que c'est j'ai des crises de pas de boulimie, mais j'ai parfois comme ça, je me mets à manger trop. Le déclencheur du présent, ça va être quand on m'agace, j'ai tendance à manger du chocolat. Donc le déclencheur du présent, ça va être quelqu'un qui m'agace. Mais au-delà de ça, cet agacement spontané, il arrive d'où ? Voilà, peut-être j'ai donné une piste, en tout cas je l'espère. Mm-hmm. Malheureusement, j'ai pas assez d'éléments dans les questionnements pour pouvoir répondre. Après, c'est bien sûr, quand on a la personne devant soi, on peut aller plus avant, mais
oui. S'il y a des phrases ou des exercices qui vous activent pendant les conférences, surtout continuez à tapoter, continuez à stimuler les points à EFT, même en écoutant ce dialogue de questions-réponses, et petit à petit, l'émotion devrait s'apaiser.
Alors, comment construire des phrases quand on a peur de conduire ? Ben, c'est ce que disait Benjamin tout à l'heure aussi, c'est se mettre en présence de la sensation corporelle. Cette peur de conduire, où vous la ressentez dans le corps, entre 0 et 10, à combien est-elle ? Et puis, aller tapoter sur, même si j'ai peur de conduire, mais d'une façon très spécifique. J'ai travaillé avec quelqu'un qui avait peur de conduire, mais sur les autoroutes, et que sur les autoroutes. Sur les routes de campagne, cette peur n'était pas là. Donc, on allait travailler très précisément sur ce qu'elle ressentait quand elle était sur une autoroute. Et là, il est apparu que ce qui lui faisait également peur, c'est la notion de vitesse, la notion de se sentir enfermé, de ne pas pouvoir s'arrêter quand elle voulait. Ça peut être le mouvement qui est trop vif. Ça peut être beaucoup de choses. J'ai travaillé souvent sur des peurs de conduire. Et à chaque fois, ce sont des peurs qui sont très spécifiques à la personne. Donc, il faut connaître un peu l'histoire de la personne. Depuis quand vous avez peur de conduire ? Est-ce qu'il vous est arrivé un incident ? Alors, je cherche une autre question.
Alors, Agave précise que effectivement l'événement passé qui lui vient, c'est la perte d'un bébé. Donc ça, c'est un trauma
c'est celle qui disait que l'émotion ne se calme pas. Effectivement, c'est pas étonnant
qu'un
événement pareil ne se calme pas en 2-3 rondes sur Internet. Hein.
Moi, je vous conseille vraiment d'aller travailler ça en présence d'un praticien. Vous pourrez bénéficier de sa présence, de son attention, de son expertise, de son habileté à aller vous accompagner dans cet événement qui est vraiment un événement important. Donc, je ne conseillerais pas de travailler ça tout seul. Vraiment, faites-vous accompagner. Vous avez, pendant ce congrès, 14 conférenciers. La plupart travaillent par Skype. Donc, vous pouvez faire ça avec quelqu'un avec qui vous ressentez une affinité, ou par Skype, ou par chez vous, quelqu'un qui pratiquerait l'EFT. Alors, l'intention du praticien, ok, mais ne risque-t-on pas d'être dans une attente ? Merci pour cette très riche conférence. L'intention du praticien EFT, moi, j'ai découvert que toute manifestation dans le physique est déclenchée, toute action a été déclenchée par une intention. Qu'on en soit conscient ou pas, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une intention derrière chaque chose. Donc, tant qu'il le faire en conscience. On peut, en travaillant avec un client, avoir l'intention de récolter une information. Puis une fois qu'on a récolté cette information, on peut avoir comme intention d'accompagner son patient pour se libérer de son trauma. Et l'intention doit être suivie d'un lâcher prise quant au résultat. Sinon, effectivement, on va tous les deux s'agripper sur « je vais aller mieux, je vais aller mieux ». C'est pas du tout le but. Notre but, notre rôle à nous, c'est d'aider le client à faire, de l'accompagner à faire son travail. On fait très peu de choses, nous. On fait très peu de choses. On propose notre présence, on va ouvrir un espace thérapeutique dans lequel le client va pouvoir travailler. Ce lieu thérapeutique, cet espace thérapeutique doit être un espace dans lequel il se sent en confiance et en sécurité. Et on va l'assister, on va être présent à ses côtés pour qu'il puisse, lui, travailler. Et c'est une découverte à chaque fois, pour tous les deux, pour le praticien et le client, de voir comment se fait le travail, par où on passe pour pouvoir faire le travail, et on verra bien où ça nous mène. On verra bien où ça nous mène. Lâchons nos attentes. C'est important de lâcher l'attente au maximum. Et si les praticiens, vous voyez que vous avez trop d'attentes par rapport au client, aller travailler sur votre sauveur intérieur pour pouvoir justement être présence, en présence, avec toute l'attention, nos compétences techniques, et pour pouvoir accompagner nos clients, et surtout, n'ayons pas d'attente pour nos clients. Et moins vous avez d'attente, en plus la créativité du client va pouvoir aller chercher des solutions auxquelles vous n'aurez même pas pensé. Alors, merci Noël, j'y estime autant que sur le plan perso, qu'en tant que praticienne, des exercices de pleine conscience avec la respiration. Pourquoi on dit j'apaise mon corps à l'inspire et j'apaise mon esprit à l'expire? Y a-t-il une raison particulière? Moi, j'ai testé les deux. J'aime bien dire j'apaise mon corps à l'inspire. C'est comme si à l'inspiration, pendant que j'inspire l'air, j'étais plus en contact avec mon corps, donc là je vais m'adresser à mon corps et je dis j'apaise mon corps et j'inspire de l'air. Et puis quand j'expire, je vais plutôt m'adresser à mon esprit en relâchant cet air. Essayez les deux, faites celle qui vous correspond le plus. Moi j'aime bien faire dans ce sens-là. Peut-on faire ce travail pour une autre personne? Je ne répondrai pas à cette question-là, sinon ça va nous envoyer beaucoup trop loin. Mais peut-on faire ce travail pour une autre personne? Je ne sais pas trop de quel travail il s'agit, mais on peut faire de l'EFT pour quelqu'un d'autre, mais là ça va nous envoyer beaucoup trop loin. Françoise Delvaux avait fait une conférence sur ce sujet, le travail, comment travaille-t-on l'EFT pour une autre personne? Quand on est douloureux et sans force pour tapoter, comment peut-on faire? Peut-on tapoter mentalement sur les points avec une phrase d'intention? Oui, tout à fait. Essayez-le, vous verrez, ça marche très très bien. Peut-on arriver? Attends, je trouve pas. Comment peut-on m'aider dans le lâcher prise? Pour s'aider dans le lâcher prise, on peut travailler sur l'EFT, sur ce qui va bloquer, sur ce qui va bloquer et ce qui est sur le chemin de la réalisation de mon objectif. Par exemple, je peux avoir comme objectif de faire la paix en moi par rapport à une relation difficile. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais mon souhait de séance, ça va être faire la paix dans cette relation, faire la paix intérieure face à cette relation conflictuelle. Donc, je vais stimuler tous les points sur mon corps en disant à voix mon dialogue intérieur, par exemple. Et ensuite, je vais lâcher complètement mes attentes. Je ne sais pas exactement ce que ça va avoir comme incidence dans ma vie. Moi, ce que je cherche, mon intention, c'est juste d'être en paix avec cette problématique-là. Et je vais lâcher le résultat. Alors, comment peut-on consulter un praticien en EFT sérieux sur le Lot-et-Carol? Pour ce genre de questions, adressez-nous un email à contact@lecongres.com et on vous donnera des noms de gens qui sont à droite et à gauche en France que l'on connaît.
Mais aujourd'hui, il n'existe pas d'annuaire centralisé. Vous allez trouver des annuaires sur les différentes écoles. Et il y a aussi une carte avec tous les praticiens, mais sans validation officielle.
Oui.
S'embarquer dans ce débat-là.
Oui, on est en train de constituer un réseau qui est déjà en route, qui s'appelle EFT Pro, où on est en train justement de récolter les informations sur différents professionnels d'EFT qui sont installés. Vous aurez un agenda là-dessus dans peu de temps. Il se trouve qu'en Lot-et-Garonne, je connais quelqu'un, puisque j'habite à Montauban et j'exerce à Montauban. En Lot-et-Garonne, je connais quelqu'un, je donnerai les coordonnées à Sophie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, j'en ai vu passer plein, mais
Il y a Fab qui me dit « J'ai du mal à évaluer, à donner une note au degré de sensation. » C'est pas très important. Déjà, mettez-vous en contact. Portez vraiment votre attention sur comment vous sentez. Portez de l'attention, mettez-vous en présence de votre sensation corporelle et demandez-vous, voyons, comment je me sens. Et vous allez pouvoir l'évaluer, même si vous n'arrivez pas à donner une note entre 0 et 10, parce que ça, c'est le cerveau gauche, hein. Donc, on va chercher une sensation et on va plutôt interroger son cerveau droit. Et puis après, on demande à notre cerveau gauche de noter entre 0 et 10 à quel degré la sensation. Donc, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est d'avoir connaissance, après la séance EFT, d'avoir connaissance si ça a diminué ou si ça a augmenté.
Alors, il y a quelques personnes qui disent que pendant l'exercice de respiration et d'apaisement, oui, pour renforcer la présence, oui, elles ont senti plus de tension. Bon, là, pour les deux, dans le cou, je pense que c'est un hasard. Est-ce normal? Voilà, ça les a inquiétés un peu.
Alors, au départ,
tu peux expliquer ça.
C'est pas très, très simple parce qu'on porte attention à deux choses. On porte attention sur l'inspiration et on dit quelque chose dans sa tête. On articule quelque chose dans sa tête. Donc, comme ça nous fait porter l'attention à deux endroits dans le corps, ça peut mettre quelques petites tensions, juste parce qu'on n'a pas l'habitude. Prenez cette habitude, dites ce que vous faites. J'inspire et j'apaise mon corps, et pendant que vous inspirez, vous apaisez votre corps. Comme on n'a pas l'habitude de faire ça, on a tendance à aller forcer sur l'inspire. Mais au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de faire cet exercice, vous pourrez respirer comme vous le faites tout à fait normalement, même quand vous n'en avez pas conscience, et dire juste « j'inspire, j'apaise mon corps, j'expire, j'apaise mon esprit ». On peut également dire « j'inspire et je souris, j'inspire et je suis conscient que j'inspire, et j'expire et je souris », par exemple. Et on peut faire ça en marchant, c'est vraiment des exercices de prise de conscience de je suis ici, maintenant, je respire, je suis consciente de mon corps et j'œuvre comme ça dans ma vie en conscience. Quand on pleure comme une fontaine après des rondes, quelle est la signification ? Je ne sais pas, il faudrait savoir à partir de quel moment vous pleurez dans les rondes EFT. Il m'arrive aussi d'être en présence de personnes qui me disent, et ça m'est même arrivé moi-même, je pleure et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on a aussi de temps en temps des mémoires cellulaires qui se libèrent et c'est un peu comme si le corps pleure et on ne ressent pas forcément d'émotions. Ça peut être des mémoires très anciennes, engrammées dans les cellules et qui se libèrent et qui se relâchent. Et il est vrai qu'on ne ressent pas d'émotion particulière pendant que ce processus de libération se fait. Ben, soyez en présence de ce processus, observez ce qui se passe, portez votre attention dessus et votre intention tout à fait neutre d'être en présence de ce qui se passe ici et maintenant. Alors, quand on pleure comme une fontaine après des rondes, quelle est la signification ? Comme je n'ai pas beaucoup d'éléments, ma réponse n'est pas très spécifique.
En revanche, moi ça me fait penser aussi à une réaction tout à fait physique que je constate parfois quand je fais beaucoup de EFT, c'est qu'on a d'une part les bâillements qui sont très courants, c'est une réaction de détente, signe que les énergies s'alignent. Et à force de bâiller, effectivement, parfois, j'ai aussi les yeux qui pleurent tout seul. Je ne suis pas triste, je ne pleure pas, mais je sens que les yeux
larment. Les yeux sont vides. Oui, ça fait.
Comme une fontaine, je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais si c'est ce genre de réaction, sachez que oui, tout comme lors d'un massage ou une méditation, toute relaxation peut provoquer une détente au niveau des yeux, qu'elle soit fermée ou ouverte, il peut y avoir un larmoiement.
Alors, y a-t-il des limites à l'EFT, des cas où on ne doit pas l'utiliser ? Alors, il y a des limites à l'EFT, bien entendu. De ne pas essayer d'aller libérer des protections tout seul. Quelque chose, écoutez-vous, si vous n'avez pas envie d'aller travailler tout seul sur un ancien traumatisme, n'y allez pas, faites-vous accompagner pour le faire. On a eu différentes conférences sur l'EFT et la femme enceinte. Sabrina Gémiès avait fait deux conférences. Elle-même enceinte a fait beaucoup d'EFT, donc ce n'est pas une contre-indication. Les contre-indications, ça va être d'essayer d'aller forcer pour libérer des choses que vous sentez vraiment très, 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 très nouées et vous allez quand même aller faire de l'EFT pour essayer de libérer des choses qui ne veulent pas se libérer. Faites preuve de bon sens. Ne faites pas de EFT avec des gens qui ont des problématiques et des maladies mentales. Si vous n'êtes pas un professionnel de la santé mentale, la schizophrénie, des troubles bipolaires, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas habilité à accompagner des gens qui ont des problèmes de maladies mentales, ne le faites pas. Ensuite, dans la vie de tous les jours, je ne vois pas de contre-indication particulière à faire de l'EFT. Si vous commencez à faire de l'EFT et que vous sentez une espèce de résistance, c'est quelque chose qui vous dit non, arrête de faire ça, écoutez-vous, ne le faites plus. Et on ne le dira jamais assez, il y a quand même des choses, ça me semble évident de se faire accompagner pour pouvoir aller les visiter et les libérer. Donc, pour info, le tapping a provoqué chez moi une crise d'éternuement assez longue. Je vais creuser un peu de ce côté. Oui, ça me fait penser, j'ai travaillé avec une personne sur un moment de sa vie qui a été traumatique. Et puis, suite à cette séance, cette personne s'est retrouvée avec des crises d'allergie. Et elle me dit, ça fait des années que je n'avais pas eu de crise d'allergie. Et là, c'est revenu. On a essayé de faire un lien avec la séance de la fois dernière et on n'en trouvait pas. Et au fur et à mesure de la séance, où on travaillait là sur l'allergie, elle s'est aperçue qu'elle était allergique au peuplier. Et dans la scène qu'on avait travaillée, la scène où il y avait eu lieu ce traumatisme, elle s'est rappelée qu'il y avait des peupliers pendant, il y avait des peupliers quand le trauma a eu lieu. Et on a travaillé sur, juste on a fait une ronde sur, même si quand il m'est arrivé ça, il y avait des peupliers, je m'accepte. Et l'allergie qu'elle avait déclenchée s'est arrêtée en 5 minutes. Donc, je ne sais pas si la crise de déterminement peut être assimilée à de l'allergie ou... En tout cas, c'est une réaction corporelle qui est apparue pendant qu'on faisait le tapping. Donc, il doit y avoir quelque chose à creuser.
Alors, Crow pose la question, une personne bipolaire et schizophrène peut-elle faire de l'EFT et sous camisole chimique? Que dirais-tu, Noël?
Je dirais que moi, je ne m'y aventurerai pas. La schizophrénie, tu peux me montrer où est la
question? En plus, sous camisole chimique, donc...
Non, mais il faut laisser ça aux médecins, c'est leur métier. Il y a des psychiatres, il y a des gens qui accompagnent les gens avec de l'EFT ou pas. Mais non, le praticien EFT qui n'est pas habilité à travailler avec des schizophrènes ne travaille pas avec des schizophrènes.
Oui, et ce n'est pas une personne qui doit... Cette personne-là ne devrait pas faire de l'EFT en autotraitement?
Non.
Sans avoir déjà consulté un spécialiste qui lui donnerait le feu vert?
Non, un schizophrène ne devrait pas effectuer de tapotement seul. C'est déconseillé, très fortement déconseillé. Puisque ce sont des gens qui ont tendance à avoir un éclatement de la personnalité, n'allons pas en rajouter. Je suis hyper émotive et très sujet au gros stress, chez les moines moites, des tremblements, etc., devant le public. L'EFT peut-elle m'aider? Oui, la question est oui. Benjamin vient de donner sa conférence sur ce sujet. Vous pouvez aller la réécouter, elle est en réécoute libre jusqu'à demain minuit. Donc, vous verrez, il donne des astuces et tout ça.
Mathilde dit, je fais du tapping avec des enfants en relaxation créative, mais j'aimerais approfondir. Que me proposeriez-vous? Ben déjà, deux conférences pendant le congrès. Demain soir, Jean-Michel Guéret parlera particulièrement de l'intelligence émotionnelle chez l'enfant. Et Caroline Burel qui intervient mardi, je crois, sur que faire quand ils ne veulent pas tabouter. Et dans le « il », il y a aussi bien le conjoint recalcitrant que les enfants, que plein de choses. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez vous former. Noël donne régulièrement des formations.
Alors, je donne des formations sur Montauban, qui est à 50 km de Toulouse, une fois par mois environ. Je donne des formations également sur Paris, une fois par mois aussi environ. Là, il y en a une bientôt. Tout début juin, et si vous avez écouté cette conférence, j'offre 50€ à toute personne qui viendront de la part du congrès à la formation du 4, 5 et 6 juin. Vous allez sur mon site noelcassan.com, vous vous inscrivez à la formation et vous mettez dans le champ de commentaires réduction 50€ due au congrès et je vous ouvrirai les portes de cette formation. Alors, j'ai vu une question. La maladie de Parkinson. Donc, Héloïse a déclenché une maladie de Parkinson. Héloïse est toute jeune, elle a la quarantaine et elle a la maladie de Parkinson depuis pas tout à fait 10 ans. Vous allez dans la partie vidéo et vous allez écouter la vidéo avec Héloïse. Elle vous parle de en quoi l'EFT l'aide. L'EFT lui permet d'apaiser tout son stress. Et du coup, elle a beaucoup moins de tremblements et elle dit que depuis qu'elle fait de l'EFT, la maladie n'évolue plus et stagne. Elle est en train de voir avec son neurologue ce qui se passe exactement pour elle parce que son neurologue est assez surpris de l'évolution de sa maladie qui a l'air de stagner effectivement. Vous pouvez stimuler sur tous les symptômes qui vous énervent, qui vous angoissent, qui vous stressent. Les tapotements sur le corps permet au cortisol de diminuer. Donc, à tous les effets du stress sur le corps, ça, déjà, ça va apaiser ça. Et dans la maladie de Parkinson, c'est vraiment intéressant de pouvoir gérer son stress et ses émotions. Et ensuite, Quoi dire, si vous avez eu des chocs et des traumatismes dans votre vie, ce qui est souvent le cas de la maladie de Parkinson, alors moi je vous conseille de vous faire accompagner pour aller travailler sur les traumatismes. Voilà pour la maladie de Parkinson.
Oui. Et en plus, dans la séance enregistrée que tu donnes en bonus, vous avez creusé vraiment la source.
On est allé travailler sur ce qu'elle considère comme étant l'origine de du déclencheur de sa maladie. Et on y va pas à pas. Alors, bien entendu, on ne travaille pas sur une séance dans ce genre de choses. C'est beaucoup de séances. C'est plusieurs séances et à chaque fois on va les libérer un point, puis un autre, puis un autre, puis un autre et différents aspects de ce qui s'est passé dans sa vie. Et le résultat, on lâche, on verra bien ce que ça fait. Notre intention de séance, c'est qu'elle retrouve son état de parfaite santé si c'est possible. Donc notre intention, c'est d'aller libérer ce nœud qui s'est passé dans sa vie. Et puis, on verra. Est-ce que on pourra vraiment renverser la vapeur? Est-ce que... On ne sait pas.
Alors, Katlib pose la question et Nina est aussi intéressée par la réponse. Quand on est douloureux et sans force ou pour d'autres raisons, ne peut pas tapoter, comment faire? Peut-on tapoter mentalement sur les points avec une phrase d'intention?
Oui, j'ai répondu un peu tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est aussi juste toucher les points, sans les tapoter, mais juste poser les deux doigts sur un point, inspirer, souffler, faire un tapotement très lent, et plutôt qu'un tapotement, poser le doigt sur le point, et puis avec être bien en présence de ce qu'on fait, de porter son attention sur ce que l'on dit, juste toucher les points, et avec l'intention de libérer le système énergétique, l'intention de se libérer d'émotions lourdes, de charges émotionnelles. Dépression et burn-out, comment faire de l'EFT? C'est très très difficile de répondre à ces questions qui sont des questions très spécifiques d'EFT. Alors, bien sûr,
il n'y a pas de ronde spécifique d'EFT contre la dépression.
Ce congrès, c'est vraiment pour faire découvrir l'EFT. C'est pas de la formation gratuite en ligne pendant les soirées. C'est complexe. La dépression, elle a une origine. Il faut aller travailler sur ses origines. Et puis, le burn-out, c'est pareil. Est-ce que le burn-out est déjà installé? Après, l'EFT, en tout cas, est une aide magnifique pour se relever d'un burn-out et, en tout cas, pour l'éviter. Ce qui est encore mieux. Alors, on dit qu'il n'y a plus de son. Non.
A priori, il y a encore du son. Rafraîchissez votre page. Bon, si vous n'avez plus le son, ça ne va pas vous aider. Mais voilà, prenez le réflexe. Si vous avez des problèmes, rafraîchissez votre page.
Oui, mais ils n'entendent pas.
Non, mais s'ils sont là aujourd'hui et qu'ils ont un problème demain, prenez cette habitude. Et nous rappelons que toutes les conférences sont en réécoute libre pendant 24 heures, même un peu plus.
La fibromyalgie, c'est pareil. Il est nécessaire d'aller travailler sur les traumatismes qui auraient pu déclencher cette maladie, sur toutes les douleurs. L'EFT marche très bien pour diminuer les douleurs. Et puis, on oublie trop souvent de le dire, et j'avais oublié de le dire, mais il n'y a pas que l'EFT dans la vie. Quelle est votre alimentation, votre hygiène de vie? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous mangez correctement? Est-ce que vous n'avez pas de carence en micronutriments au niveau de vos cellules? Et c'est un ensemble qu'il faut aller regarder pour se libérer, pour retrouver un état de bonne santé. Il faut vraiment aller regarder d'un point de vue holistique. L'ostéopathie aussi peut aider sur la fibromyalgie, le yoga, la méditation, les visualisations, l'EFT pour aller se libérer de traumas passés, pour gérer le stress émotionnel tous les jours. Voilà, donc vous voyez, c'est très très vaste. Et ça, on peut le dire pour quasiment toutes les maladies qui seraient déclenchées. Peut-on faire de l'EFT avec des personnes âgées qui ont des difficultés de concentration? Ah oui, alors. Et croyez-moi, ça les aide considérablement aux personnes âgées. Quand on s'adresse à nos parties, on fait des rondes en leur disant « tu » ou « cette partie » ou « on s'identifie à elle ». Moi, ce que je fais, c'est que alors, si je suis en auto-traitement et que je travaille et que j'entends une partie de moi qui apparaît pour me dire quelque chose, je dis, même si cette partie me dit ça, je m'adresse à elle et je la remercie infiniment. Et ensuite, je continue en disant « je ». Voilà. Comment je peux dire. D'ailleurs, si...
Toutes les formulations sont possibles. Choisissez
oui,
celle qui vous parle le plus.
C'est pour ça. Maintenant, si vous imaginez faire de l'EFT pour la partie qui est en vous, vous pouvez dire, même si tu es très en colère après moi, parce que si vous travaillez avec le critique intérieur, par exemple, vous avez une part de vous qui vous critique. Ah là là, tu n'as même pas été encore capable de faire ça. Vous pouvez dire, même si une partie de moi me critique sévèrement parce que je n'ai pas encore été capable de faire ça, je m'adresse à elle et je la remercie infiniment pour son message. Je n'ai pas encore été capable de faire ça et cette partie me critique vertement. Cette partie de moi qui est vraiment très critique, cette partie qui dit et vous dites à haute voix ce que la critique que vous dites, et vous pouvez comme ça poursuivre les rondes. Pour ce qui est de l'Internal Family System, l'IFS, vous avez François, je vous l'écris dans le chat, le Dose, qui a fait un TED. TED, ça veut dire une conférence sur Internet. Et cette conférence s'appelle « On croit qu'on a des problèmes ». C'est une conférence qui dure une vingtaine de minutes. Il vous explique très très bien ce qu'est ce système familial intérieur. Et ça peut vous aider à travailler sur vous-même ou avec vos clients si vous êtes praticien EFT. On croit qu'on a des problèmes. Et c'est un TED. Et c'est gratuit. Et vous avez ça sur Internet, c'est formidable.
Bon, et ben, ça commence à être l'heure. Petite dernière pour la route, Noël.
Une dernière question. Si j'en voyais une autre.
Et rappelle que dans la page de réécoute, qui sera en ligne à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure après la fin du direct, vous pourrez continuer à poser vos questions à travers les commentaires. Et Noël se fera un plaisir d'aller vous répondre.
Oui. Il y a un mail qui me pose la question. Lorsque vous avez parlé de présence et d'attention par rapport à des douleurs physiques, vous mentionnez la conscience du membre concerné. S'adresse-t-on à la conscience du genou pour travailler les douleurs du genou? Si oui, à quel moment, après avoir traité tous les aspects de la douleur? Alors, vous pouvez travailler tous les aspects de la douleur, avant ou après, mais l'important, selon Pierre Tricot, c'est de s'adresser à la conscience. Pour lui, la cellule est une conscience. La cellule répond. Quand il pose une question au corps, le corps lui répond à travers un mouvement. En ostéopathie, on va travailler sur du mouvement. Et donc, il s'adresse à la conscience tissulaire. Et pour lui, le corps est un ensemble de conscience. Donc, il va s'adresser à la conscience des tissus du genou. Et pas la représentation d'anatomie du genou que lui a dans la tête en tant que professionnel. Il s'adresse vraiment à la conscience qui est à l'intérieur de la cellule. Et vous apercevrez que de ce fait, vous allez rentrer en contact avec ces consciences et que votre travail va être beaucoup plus efficace. Si vous êtes attentif aux consciences qu'il y a dans les genoux et que vous dites « je m'adresse à cette conscience », vous allez voir que cette conscience va vous répondre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vous êtes dans une cour de récréation, il y a des enfants qui courent partout, puis tout d'un coup, vous allez porter votre attention sur l'enfant qui a le pull rouge et vous allez entendre plutôt ce qu'il dit lui. Vous allez trier, filtrer et vous allez porter attention sur cet enfant et ce qu'il va dire va émerger du brouhaha ambiant. Et puis, si vous adressez à lui et que vous dites « Hey, je m'adresse à l'enfant qui a le pull rouge », cet enfant va s'arrêter, vous regarder et vous répondre. Et la conscience tissulaire, la conscience du corps, elle fonctionne aussi comme ça. Si vous adressez à la part de vous qui manifeste ceci ou cela, et que vous adressez à elle spécifiquement, vous verrez, elle vous répondra. Et donc, vous vous adressez à la conscience de si vous avez une lombalgie, là, vous adressez à la conscience qui se trouve dans vos lombaires. Et vous serez écouté. Et bien sûr, après, c'est de l'EFT tout à fait classique. Vous allez tapoter, stimuler votre système énergétique et corporel.
Et merci beaucoup, Noël. Il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Il y a beaucoup de prise de conscience à travers cette présentation ce soir. Donc, voilà, je le répète, la page de réécoute sera en ligne dans peu de temps. Merci Bertrand et Christelle qui s'occupent de ça. Si vous avez des questions spécifiques pour tel ou tel sujet, n'hésitez pas à envoyer un mail, à répondre à n'importe quel mail d'invitation envoyé par le Congrès et nous transmettrons à qui de droit et on pourra essayer de vous guider.
Merci à tous pour votre présence. N'oubliez pas que prendre une décision, c'est la prendre avec la tête, avec le cœur et avec notre système énergétique également. Soyez attentifs pendant ces conférences. J'espère que vous y trouverez énormément de clés pour continuer à travailler pour vous, de vous libérer de vos différents excès émotionnels. Petit à petit, vous transformez, libérer de nos fardeaux, libérer de nos blessures. On est plus que ce que l'on croit. On est emprisonné dans des schémas, dans des habitudes, en espérant que votre pratique de l'EFT va vous libérer de toutes ces entraves pour acquérir encore plus de liberté. Merci pour votre présence. C'est la 6e année qu'on vous retrouve et c'est toujours un immense bonheur. Toujours plus grande d'ailleurs.
Oui, de plus en plus, de mieux en mieux.
De plus Génial. En plus, de mieux en mieux. Merci infiniment. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain 19h.
Oui, j'ai un blanc, mais vous trouverez sur le programme ce qui se passe demain soir. Si demain soir, nous avons Catherine Di Cristofano qui va nous parler de EFT et insomnie. Et n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. S'il y a des personnes qui s'inscrivent encore à partir de maintenant et peuvent rattraper les conférences de ce soir et vivre les 12 autres en direct. Et à 21h demain, ce sera Jean-Michel Guret sur l'intelligence émotionnelle chez l'enfant et comment la favoriser grâce à l'EFT. Donc encore deux conférences riches et denses. Alors voilà, rendez-vous demain.
Rendez-vous demain. Retrouvez-nous sur Facebook, on a une super page Facebook qui s'appelle Congrès Virtuel EFT. Ce n'est pas le Congrès Virtuel EFT, mais c'est Congrès Virtuel EFT. Voilà. On peut se retrouver là-bas entre les deux, dans la page de réécoute. Posez-moi les questions là-bas, je vous répondrai dans la mesure du possible. Et vive l'EFT.
Vive l'EFT et n'hésitez pas à nous écrire. Nous contacter sur la page Facebook, les pages de replay à travers les commentaires et le mail.
Et le mail et mon site internet, c'est noelcassan.com.
Ah ben oui.
Bonne soirée.
Merci à tous.
Merci à tous.
Bon, ben je crois qu'elle en a marre. Hein, voilà, libérée.
Hop, hop.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée à tous.
À demain.
À demain.